filière électronique qui existe en Dordogne. Effectivement, c'est assez souvent méconnu, mais on a une filière importante en électronique. Hein. Vous voyez ici quelques produits qu'on fabrique. Il n'y a pas de canard, il n'y a pas d'éléments agroalimentaires, mais malgré tout, je vous parlerai de tout ça plus en détail, mais je dirige l'entreprise Cofidur, je vous expliquerai ça aussi, mais sachez qu'il y a quand même 3 entreprises électroniques en Dordogne, hein. On est trois concurrents, même si on s'entend bien, mais en tout, on représente plus de 500 emplois dans le département. Donc c'est quand même une filière qui est assez intéressante, et l'idée ce soir, le thème qu'on vous propose, c'est de faire un peu connaissance avec cette filière et d'essayer de comprendre pourquoi une telle filière a pu se développer sur notre territoire, et quelles sont les opportunités à venir, et évidemment les difficultés, ce que rencontrent les papeteries, on peut d'autres aussi à le rencontrer, donc en tout cas c'est important d'échanger là-dessus. Donc moi je m'appelle Nicolas Gerby, j'ai 43 ans, bientôt, ça fait quasiment autant de temps que j'habite à la Bachellerie, voilà, pas très loin. J'ai toujours vécu ici, je travaille à Périgueux depuis 22 ans, en tout cas j'avais envie de rester ancré sur ce territoire qui m'est cher, et puis de développer aussi ce qu'on peut faire au travers de l'entreprise à Périgueux. Donc je suis rentré chez Cofidur moi il y a 22 ans maintenant, en 2001. J'ai fait un stage de fin d'études en DUT, je faisais un DUT d'informatique. J'ai eu l'opportunité de faire un stage de fin d'études chez Cofidur. Ensuite j'ai voulu intégrer une école d'ingénieurs en alternance, et j'ai eu la chance qu'on me garde dans cette entreprise aussi pour faire mon alternance. La suite de quoi, j'ai été embauché en tant que chef de projet informatique. J'ai travaillé sur pas mal de projets autour de la logistique, et quelques années plus tard, je crois en 2005 ou en 2006, on m'a proposé de prendre en charge le service logistique justement. Je suis devenu directeur adjoint du site en 2015 je crois, et directeur du site en 2017. Et en 2021, maintenant il y a 2 ans, donc on s'est associé avec 6 collègues du comité exécutif et on a racheté le contrôle de l'entreprise. Donc voilà un petit peu mon parcours. Alors Cofidur, qu'est-ce qu'on fait ? Cofidur, donc on est une entreprise d'électronique, je vous expliquais tout ça. On existe depuis plus de 50 ans. Voilà, on a des gens qui ont fait toute leur carrière chez Cofidur. Eliane, par exemple, qui a fait du début à la fin chez nous. On est un groupe français indépendant, même si on est coté en bourse, on a la majorité du capital détenu par les dirigeants et l'autre partie qui est en bourse. Si ça vous plaît, vous pouvez en acheter en partant de la conférence ce soir. Mais en tout cas, on est quand même une entreprise indépendante et on a le contrôle de notre destin. Le groupe a été créé dans la fin des années 60, il y a un peu plus de 50 ans. D'abord par Christian Durat, Cofidur, ça veut dire compagnie financière Durat. Qui a lui-même cédé ses parts au début des années 2000 à 3 de ses collaborateurs les plus proches et qui ont eux-mêmes, comme je vous l'ai expliqué, cédé leurs parts à 7 cadres du COMEX dont j'ai le plaisir de faire partie. On est implanté sur 3 sites, un site à Laval en Mayenne où on est à peu près 250 salariés, un site à Périgueux, à Boulazac plus précisément, je vais y revenir, on est à peu près 150, et un site en Tunisie où on est une petite centaine, donc ça fait en gros 500 employés et on fait à peu près 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le site de Périgueux, donc il est situé à Boulazac. Il a été installé dans la zone industrielle de Boulazac à l'initiative d'Yves Guéna, quand Yves Guéna était ministre des télécoms. Donc il a implanté l'imprimé du timbre et il était assez visionnaire évidemment. Et donc il avait en tête de développer une zone industrielle. À l'époque, il y avait Classo Béval dans la zone. Et donc il s'est dit que ça serait bien de faire venir une compagnie d'électronique. Et donc il a fait venir la compagnie des signaux. C'est pour ça qu'on est encore connu là-bas sous le nom des signaux, puisque c'était le nom de la société pendant longtemps. Et donc cette société s'est développée fortement jusqu'à la fin des années 80, où il y avait plus de 400 salariés. Bon, après, elle a connu quelques difficultés économiques, et c'est à ce moment-là que le groupe Cofidur l'a racheté en 1989. Et donc c'est une société qui fait partie de Cofidur maintenant depuis plus de 30 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fabrique chez Cofidur ? Vous avez vu le nom, ça s'appelle Cofidur EMS. EMS, en bon français, ça veut dire Electronic Manufacturing Services. C'est le nom qu'on donne aux sous-traitants électroniques. Donc nous, on fabrique des produits et des services en électronique, en sous-traitance pour des grands groupes. Les produits qu'on fabrique, vous avez quelques exemples ici, je vous expliquerai un petit peu après comment on fabrique tout ça. Donc notre métier, voilà, à la base, c'est de souder des composants sur des circuits imprimés. Et bien évidemment, ben, au-delà de tout ça, il faut les composants, ben, il faut les acheter, il faut développer des process techniques pour les souder, il faut trouver des éléments pour les tester. Vous voyez que les produits aussi, on les intègre dans des produits plus complets, donc il y a toute l'opération d'achat qui va autour, et puis toutes les ingénieries, etc. Donc c'est pour ça qu'on parle manufacturing, production et service, et c'est vraiment les deux piliers sur lesquels on s'appuie dans cette entreprise. Les secteurs qu'on adresse, c'est des secteurs essentiellement des grands comptes, et nos clients, ce sont plutôt des gens leaders sur leur marché, des gens comme dans le secteur de l'aéronautique, du médical, du ferroviaire, des moteurs électriques, des machines-outils. Donc on a peu de clients, on a une cinquantaine de clients qui sont plutôt des leaders de leur marché sur lesquels on travaille sur la durée avec eux, sur des programmes. Et on est à peu près, voilà, c'est vrai qu'à Périgueux, on fait beaucoup on est spécialisé dans la petite et la très petite série orientée autour de l'aéronautique et du militaire, beaucoup. Donc on est présent dans un peu tous les porteurs. Si vous prenez l'avion, vous volerez forcément avec des cartes de chez nous. Si tombe en panne, j'espère que c'est pas notre faute, mais en tout cas, il y aura des cartes à nous. Donc voilà pour présenter un petit peu rapidement le groupe. Et donc pour finir, le contexte économique dans lequel on évolue. Évidemment, on est dans un environnement ultra concurrentiel. Imaginez bien, on est soumis, nous on est en concurrence avec des Asiatiques, avec de l'Europe de l'Est, avec des pays d'Amérique, etc. Donc on est une concurrence assez féroce, une course au prix. Un élément aussi particulier, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, c'est que la plupart des composants sont fabriqués en Asie. Donc nous, on s'approvisionne essentiellement en Asie. Vous avez entendu tous parler de la crise des semi-conducteurs depuis 3 ans. Évidemment, on a été fortement impacté par ça. Mais ça veut dire que les gens qui sont implantés pour fabriquer en Asie sont quand même privilégiés par rapport aux Européens puisqu'ils ont les usines de composants sur place. Donc voilà, donc tout ça fait qu'évidemment, on est dans un secteur, dans l'électronique, très concurrentiel. Et puis après, on va retrouver les éléments qu'on connaît tous de compétitivité, la difficulté qu'on a par rapport à la compétitivité de nos entreprises. Et globalement, qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort ? Malgré tout, on y arrive, hein, on se développe et on continue à croître, même si on a été très, très mal, hein, entre guillemets, après le Covid. Hein, on était, comme je vous l'ai dit, dans l'aéronautique. Il y a 3 ans, jour pour jour, on était arrêté quasiment. Hein, on a tourné à 10 personnes sur nos 2 sites pendant 2 ou 3 mois, puis on est reparti, on a rebondi. Et parce qu'on a essayé d'être actif, de trouver des solutions. Et donc, la seule solution pour s'en sortir, ben, c'est de se bouger, d'être actif, de répondre aux besoins du client, d'essayer d'être moins cher que les voisins, mais surtout d'amener du service. Et donc, c'est ça le challenge quotidien qu'on doit relever dans nos entreprises. Voilà une petite introduction pour faire connaissance. Maintenant, je propose, si vous avez des questions auxquelles je répondrai avec plaisir, on peut parler de... Le champ est vaste, on peut parler technique, on peut parler de pilotage d'entreprise, on peut parler d'économie, compétitivité, développement industriel, ce que vous voulez, mais... Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
Jacques Mangier de l'AIT. Déjà, je vous remercie pour cette présentation très très claire. J'ai 2 questions en fait. La première, c'est une question un peu technique. Est-ce que vous concevez les cartes depuis 0, depuis rien quoi ? Ou est-ce que, par exemple, si Alstom vous dit de faire une carte, elle est déjà plus ou moins étudiée, designée, etc. Et la deuxième question, c'est moins technique. Est-ce qu'en adaptant un peu cette présentation, vous seriez prêt à faire une présentation de la même forme dans des collèges ou dans des lycées pour peut-être inciter les jeunes à faire autre chose que des youtubeurs?
Alors, deux éléments. Le premier, d'abord, sur la partie technique. Donc, nous, on n'intervient pas en conception. On intervient donc en sous-traitance de clients comme... Vous parliez d'Alstom, Thales, Safran, etc. Donc, il y a des gens qui, eux, conçoivent, font des études. Donc, on ne fait pas d'études. On a un partenaire qui fait des études pour nous, si toutefois notre client demande des études. Par contre, on intervient dans la phase, ce qu'on appelle l'industrialisation. C'est-à-dire qu'on a un client qui arrive avec un schéma. Il dit, moi, ma carte, elle doit faire ça et ça. Et nous, on va essayer de trouver des solutions techniques pour optimiser la production de la carte, pour faire en sorte que... Vous imaginez bien que vous expliquer un peu le process de fabrication, mais il y a beaucoup d'opérations manuelles. Mais on essaie au maximum aussi de trouver des opérations automatisées. Et donc la façon dont vous concevez la carte, l'endroit où vous posez tel ou tel composant ou tel type de composant, fait qu'on pourra peut-être la poser avec une machine et donc évidemment gagner sur le temps. Donc nous on intervient vraiment sur cette phase, on a beaucoup investi ces dernières années là-dessus. On a toute une équipe d'ingénieurs qui travaille sur l'industrialisation. Mais la partie conception, c'est pas notre partie. Et pour la deuxième partie du sujet, on le fait déjà. Continuer à le faire avec plaisir, mais on essaie d'être le plus présent possible auprès des lieux d'enseignement. On a des partenariats avec pas mal d'écoles. Localement, on a un partenariat important avec Clairvivre, le CRP de Clairvivre, puisque Clairvivre propose une formation en monteur câbleur en électronique. Donc on est partenaire avec eux depuis longtemps, mais on est aussi partenaire avec des écoles d'ingénieurs, le CESI à Angoulême par exemple. Et puis on essaie d'aller dans des collèges, dans des lycées, et puis surtout, alors c'est bien d'aller dans des collèges et des lycées, mais bon... il faut le faire. Ce qui est important, ce qu'on essaie de faire, on essaie de le faire aussi avec, avec l'UMM, le MEDEF ou d'autres institutions, c'est de faire venir des professeurs ou des conseillers d'éducation dans nos entreprises pour apprendre à se connaître. Qu'on essaie de lever un peu la barrière qu'il peut y avoir sur le monde de l'industrie. Souvent, les gens ont quand même en tête l'industrie, c'est plutôt Germinal ou Ford dans Voyage au bout de la nuit. Enfin voilà, c'est pas ça les entreprises. Hein. Venez visiter, je sais pas, Eliane pourra en parler, mais elle a travaillé chez nous 40 ans. Elle a l'air plutôt en bonne forme, vous voyez. Hein, il n'y a pas qu'elle est à la retraite. Et donc, l'avantage de l'électronique, c'est que vous êtes dans des conditions de travail quand même relativement optimisées, c'est climatisé, c'est, on touche des produits, entre guillemets, voilà, il y a Vous n'avez pas besoin de porter une charlotte, pas les mains sales. Bon, on est spécialisé dans la petite série, donc il n'y a pas de récurrence dans l'activité, donc c'est assez intéressant. Vous ne faites jamais la même chose tous les jours, il y a beaucoup de métiers différents. Voilà, donc on essaie de faire connaître ça, mais il faut le faire davantage. Mais c'est une démarche importante.
Une question parmi le public sur la formation des jeunes.
Oui, alors vous l'avez compris, on a une panoplie de métiers assez large. Hein, si je prends l'exemple, moi je dirige le site de Périgueux, on est 150 sur place et il y a 70 métiers différents. Donc il y a vraiment une très grande variété d'activités, de métiers, depuis le monteur câbleur, donc la personne qui soude les composants sur les cartes, jusqu'à des ingénieurs process ou autre. Donc il y a une panoplie de métiers assez large. On va avoir en gros trois filières de recrutement ou de formation. Le recrutement externe qui va plutôt être dirigé auprès de personnel d'encadrement, qu'on va essayer de recruter en externe. Évidemment avec les difficultés que ça peut représenter pour l'attractivité du territoire notamment, même si on constate quand même que depuis la sortie du Covid, on a quand même plus de facilité à recruter. C'est indéniable sur l'encadrement, par exemple. On avait beaucoup de difficultés à recruter dans l'encadrement à Périgueux. Vous savez, je vous l'ai dit, on a une usine à Laval, une usine à Périgueux. On recrutait beaucoup plus facilement à Laval parce qu'on est proche de Rennes, on est à 2 heures de TGV de Paris. À Périgueux, on avait du mal. Et depuis le Covid, est-ce que c'est l'effet de vouloir retourner dans les territoires ruraux, enfin, je sais pas. En tout cas, on a recruté pas mal de personnes à l'externe. Et là, donc, on va plutôt chercher des profils assez spécialisés sur des métiers particuliers. Ça, c'est une filière de recrutement. Deuxième filière de recrutement, ça va être la formation interne. Donc, beaucoup de promotion interne. Enfin, je vous ai expliqué mon parcours, mais on est nombreux à évoluer au sein de l'entreprise. C'est l'avantage aussi des PME, mais on va essayer aussi de cibler des profils et puis de les faire évoluer en interne. Et la troisième voie, par contre, pour la partie production pure, donc formation sur les métiers qui nous permettent notamment de monteur câbleur en électronique, là, c'est de la formation interne. Donc, on travaille là avec un système de CQPM, c'est des diplômes certifiants de la filière de la métallurgie. Et donc, on va essayer de chercher des profils à former. Donc, la difficulté, c'est de trouver des profils à former. Mais on a donc notre principe, hein, on travaille avec le CFAI sur ces sujets. Et donc, on a des personnes qui vont faire une formation de 8 mois chez nous, qui vont faire une semaine en formation. La formation se fait dans l'usine. On a une salle de formation où un prof vient une semaine pour leur appliquer des bases. Et puis après 3 semaines en tutorat avec du personnel qualifié pour la formation. Et au bout de 8 mois, ben, ils passent un diplôme. Et s'ils ont le diplôme, on les garde, ou s'ils veulent rester. Et donc la difficulté, là, c'est d'arriver à trouver les profils et à identifier des gens à former. On essaie sur ces postes-là, on a à peu près 10 postes ouverts par an et on arrive péniblement à en allouer 2 ou 3. Quoi. C'est assez difficile. Pour faire le recrutement, pour la sélection, on utilise la méthode MRS, ça s'appelle la méthode de recrutement par simulation de Pôle emploi. Et donc on essaie de cibler des gens. Vous voyez, la dernière qu'on a fait, on avait au départ... On a eu des difficultés à réunir une cinquantaine de personnes. Et puis sur les 50, on en a gardé 6, je crois, ou 7 pour la formation. Et à la fin, il en restera 3. C'est assez difficile. Mais en tout cas, c'est de la formation, toute en formation interne. Et donc, il y a par contre une réflexion là, des pouvoirs publics. Enfin, on travaille avec les collectivités, un peu tout le monde. Comme je vous l'ai dit, on est plusieurs entreprises à faire de l'électronique en Dordogne. Et donc, les autorités locales s'interrogent sur la pertinence de monter peut-être un centre de formation dédié à l'électronique autour de nos métiers. On travaille aussi avec l'Université de Bordeaux sur un projet là-dessus, dans le cadre de France 2030, où il y a peut-être des subventions à aller chercher, mais les dossiers sont lourds à monter.
Comment vous gérez la qualité dans l'entreprise et comment vous adaptez pour la gestion du recyclage des produits en fin de vie?
Alors, sur l'aspect qualité, donc... je vous l'ai dit tout à l'heure, on est, nous, dans beaucoup de secteurs différents. On travaille dans le ferroviaire, dans le médical, dans l'aéronautique, dans le militaire, dans tout un tas de secteurs. Et donc, on a des certifications ISO. On en a 7 en tout, hein, sur le site, différentes, au niveau du groupe, pour adresser ces différents secteurs. Et vous avez des spécialités, qualité, pour tout ça. Donc déjà, on est dans un système qualité assez encadré. On travaille avec des clients, comme je vous l'ai dit, qui sont plutôt des grands groupes, donc qui ont eux aussi des systèmes d'audit qualité, où ils viennent nous auditer et contrôler notre système qualité général. On a des systèmes de formation. Et puis après, ben, à l'intérieur de l'entreprise, tout simplement, des systèmes de contrôle. Alors des contrôles humains et puis beaucoup de contrôles automatisés. On investit beaucoup, hein. On investit, nous, à peu près 1 million d'euros par an, hein, sur du matériel nouveau. Et donc, on va chercher effectivement à détecter le maximum de défauts. Alors, on vous a amené là quelques échantillons de produits. Vous pourrez après vous approcher et toucher. C'est des produits qui ne vont pas voler, donc vous pouvez mettre les mains dedans. Mais vous verrez un petit peu la différence de produits qu'on peut faire, notamment la taille des composants. On pose des composants qui sont minuscules, on pose des gros composants, vous voyez, mais on voit certains aussi qu'on ne voit pas l'œil nu. Et donc le seul moyen de les contrôler, c'est avec des machines automatiques. Et donc on a des machines d'inspection qui viennent contrôler les produits. Et c'est comme ça qu'on garantit la qualité. Nous, alors au niveau du groupe, on va adresser quatre grands secteurs. Le premier secteur, c'est ce qu'on appelle industriel et professionnel. Ça va représenter à peu près la moitié de notre activité. On retrouve dans industriel et professionnel les métiers qui sont liés à machines-outils, par exemple, des robots. Vous voyez, je sais pas, vous avez vu tout ça à la télé, des usines d'automobiles dans lesquelles il y a des bras robotisés. Ben, on fabrique des cartes électroniques qui vont dans ces bras robotisés, des machines de découpe de tissus, donc toutes les machines à destination des professionnels, des moteurs électriques. Des systèmes de commandes de métiers à tisser. Ce que vous voyez ici, le pupitre qui est ici, c'est des métiers de commandes de métiers à tisser. Il faut savoir aussi, c'est intéressant parce qu'on parle toujours de ce qui vient de Chine et qui est fait en France. La plupart des produits qu'on fabrique, ce que vous voyez ici, sont destinés à l'export. Les avions sont quand même exportés en grande partie, mais au-delà de ça, par exemple, si je vous prends l'exemple du métier à tisser, on fabrique ces produits en France pour un client français qui est basé à Annecy, et 95% de la production part en Inde. Il n'y a pas d'usine en France pour fabriquer des jeans. Et donc, on arrive à faire dans ce sens-là. Alors, il faut être qualité, il faut être compétitif, mais on arrive à le faire. Donc ça, c'est à peu près la moitié de notre activité. Ensuite, on a un quart de l'activité qui va être dédiée à la partie aéronautique et militaire. Donc là, on va être présent sur, comme je vous le disais, à peu près tous les porteurs civils et militaires et tous les systèmes d'armement qui sont connus et développés en France. C'est un quart de l'activité du groupe, et plus précisément pour Périgueux, c'est une grosse moitié de l'activité du site de Périgueux. Ensuite, on va avoir une activité particulière qu'on fait sur notre site de Laval, qui est dédiée à la réalisation d'électronique pour l'éclairage public. Vous savez, dans les collectivités, petit à petit, on remplace les lampes à incandescence par des lampes en LED. Et en fait, les lampes LED, c'est les cartes électroniques. Hein. C'est pas une ampoule. Vous avez un circuit imprimé en aluminium et on vient souder des LED sur le circuit imprimé. Donc, on fabrique ça en très grande quantité sur notre site de Laval. On a un site à Laval qui fait 30 000 m2. Où on fait du volume et on doit poser 2 millions de LED par mois. Donc on a une grosse activité sur la LED. Et la dernière activité, c'est la partie télécom. On intervient pour les télécoms professionnels. Notamment, on a un gros client que vous connaissez qui s'appelle Free. On a fabriqué longtemps les Freebox publics, mais qui sont maintenant fabriqués ailleurs. Mais par contre, on fabrique aussi les Freebox professionnels. Et on vient de récupérer sur le site de Laval, ça a été un petit peu médiatisé, enfin, presque spécialisé local, mais en tout cas, sur notre site de Laval, on a récupéré un marché en relocalisation, c'est un marché qui était fait par Alcatel, qui était fabriqué en Roumanie pour les terminaux de téléphones professionnels. Et donc Alcatel a eu la volonté, avec l'appui du gouvernement, de relocaliser cette activité. Et donc on a pu à Laval récupérer cette activité. Pour la petite histoire, le site sur lequel on est à Laval, c'était un site Alcatel par le passé. L'histoire se reproduit un petit peu. Dans des proportions, bon, c'est 20 emplois, hein, c'est pas 3000 personnes, mais en tout cas, c'est un début sur ces activités de relocalisation. En tout cas, j'ai l'exemple positif de la préférence française que je viens de vous dire sur Alcatel. Alcatel a fait une démarche vraiment de relocalisation. Effectivement, on sent depuis l'après-Covid, en tout cas, qu'il y a une certaine prise de conscience que c'est quand même utile de fabriquer localement. Maintenant, la réalité économique, elle est quand même là. Il y a deux réalités qui... Le premier problème, c'est le problème de compétitivité. In fine, les cartes vont dans les avions. Est-ce que vous êtes tous prêts à payer vos billets d'avion 25% plus cher si les cartes sont fabriquées chez nous? Je ne sais pas. Si demain matin, on voulait remettre ici, en Dordogne, une usine qui emploie 2000 personnes dans le secteur de l'industrie électronique, je ne sais pas avec qui on les ferait. On a du mal à recruter 15 personnes par an. Donc malgré tout, il y a quand même des réalités. Après, il ne faut pas être fataliste, il y a plein de choses. Mais je veux dire, il vaut mieux essayer de travailler sur des secteurs sur lesquels on a des capacités à développer, enfin c'est mon avis personnel, mais par exemple, il y a un projet important de relocalisation d'une activité de semi-conducteurs, c'est sûrement intéressant, mais on ne va pas relocaliser toute l'activité des semi-conducteurs. L'Europe de l'Ouest, on utilise 4% du marché mondial du composant électronique. Donc les grands fabricants vont pas, les iPhones ne seront pas faits en France, hein, il n'y a pas d'intérêt particulier. Donc évidemment, en tout cas, qu'on voit plutôt un phénomène de protection et qui est louable, mais après qui va se heurter aussi à des réalités économiques. Le problème du coût du travail, notamment, en tout cas la compétitivité de nos entreprises, il est majeur. C'est pas... Nos atouts, pour qu'on s'en sorte, déjà c'est notre expérience, je pense. Hein. On est là depuis 50 ans, on s'appuie à la fois sur du personnel qualifié et expérimenté, mais également sur du personnel qu'on a renouvelé beaucoup. Hein. Ces dernières années, on a eu beaucoup de départs en retraite, on a beaucoup renouvelé. Donc à la fois l'expérience et puis la fraîcheur fait qu'on a quand même... On connaît bien le secteur, ça fait 50 ans qu'on fait ça. On essaie d'être à l'écoute du marché. Et puis, ben, on essaie de trouver des produits qui soient sur lesquels on peut se positionner. On va plutôt fabriquer, nous, en France en général, les produits que les autres ne veulent pas faire. Hein. Un produit qui est plutôt de série, qui est mature et qui nécessite beaucoup de manuels, il sera pas forcément fait en Europe. Par contre, des produits compliqués sur lesquels on a une technicité, il y a peu de volume, et sur lesquels surtout nos clients ont besoin de service, c'est là où on a un atout à jouer. Le service, ça va être la réactivité, ça va être d'essayer de se plier en quatre pour trouver une solution le plus vite possible et répondre aux besoins en réactivité, parce que nos clients sont quand même, encore heureusement pour nous, les donneurs d'ordre sont quand même beaucoup en France. On a la chance d'avoir quand même des fleurons internationaux, hein, que ce soit Airbus, Dassault, Thales, ça fait beaucoup d'ETI, hein. À Electra, à Bordeaux, à Sobeys dont je vous parlais tout à l'heure, enfin beaucoup de boîtes un peu de notre taille, mais qui sont leaders dans leur marché, sur lesquelles il faut qu'on les accompagne. Donc ça va être le service, essayer de trouver des solutions, être un peu plus malin que les autres. Fabriquer une carte électronique en soi, c'est pas très compliqué. Une carte moderne, je veux dire, vous avez des machines, vous achetez des composants, bon, il faut un peu de technicité, mais c'est pas très compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est tout ce qu'on va faire autour. Je sais pas, vous voyez, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais enfin, on peut le faire si vous voulez. Mais vous voyez des fils qui dépassent des cartes, des choses comme ça. Tout ça, c'est des petites particularités qu'on rajoute qui sont difficiles à faire. Tout ce qui va être opération manuelle, ça va être difficile à faire. Tout ce qui va être. Et surtout, le plus important tout, mais ça, je pense que c'est valable pour toutes les industries aujourd'hui, c'est la réactivité. Le maître mot, c'est d'être réactif. Il faut. Le client a un besoin, il faut se plier en quatre pour trouver une solution et répondre tout de suite. Le monde n'attend pas, donc il faut vraiment trouver des solutions. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir des équipements qui vous permettent de le faire, mais surtout il faut avoir du personnel, j'insiste là-dessus, qui soit en capacité de répondre à ce besoin-là. Donc c'est la façon aussi dont vous recrutez, dont vous formez les gens et dont vous les managez au quotidien qui font qu'il faut qu'ils soient impliqués dans cette démarche-là, qu'ils aient envie de le faire et que tout ça soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a le marché. En ce moment, l'électronique est vraiment en croissance forte en France. Là, il y a un pic d'activité. Ça va se retasser dans quelques mois, mais il y a globalement une activité. On n'est plus très nombreux quand même. Il y a eu durant une quinzaine d'années, il y a eu beaucoup de boîtes qui ont mis la clé sous la porte. Donc il y a une demande qui est là. Donc il faut s'organiser pour y répondre. Mais il faut trouver le bon angle d'attaque et puis trouver aussi le personnel pour le faire. Je parlais tout à l'heure de l'encadrement, par exemple. Il y a une difficulté quand même d'attractivité du territoire qui, comme je vous le dis, si on est plutôt positif, qui a l'air de se résorber quand même, en tout cas ponctuellement. Est-ce que c'est un phénomène marginal ou qui durera, je ne sais pas. Mais globalement, l'attractivité du territoire, c'est important. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, des jeunes qui vont se former dans les grandes métropoles, qui n'ont pas forcément envie de revenir à la campagne. Et donc, l'enclavement de la Dordogne, ce n'est pas un atout. Hein. Géographiquement, c'est ce qu'on met en avant. On n'est pas loin de la mer, pas loin de la montagne, pas loin de. On a l'autoroute, heureusement, qui nous a désenclavé, qui nous a beaucoup aidé. Mais on n'a pas de TGV. Ça commence à s'arranger avec Bordeaux, mais enfin, il y a encore du travail. Voilà, on n'a pas d'avion. Enfin, bon, tout ça fait que. Et puis, on a une population qui est plutôt vieillissante. Donc, il faut individuer du territoire. C'est évidemment un élément majeur. Au-delà de ça, globalement, on va identifier deux secteurs différents. Le secteur plutôt de l'encadrement et le secteur des techniciens supérieurs, on va plutôt trouver des profils, mais on va avoir du mal à les attirer, comme je disais tout à l'heure. Il y a des gens qui existent, mais il faut arriver à les faire venir. Donc bon, il faut travailler. On travaille beaucoup la marque employeur, par exemple. Voilà, il faut sortir. Il y a l'argent, hein, mais il n'y a pas que ça. Mais ça y joue aussi. Hein, donc la capacité donc à attirer des gens, et donc ça passe par tout ce qu'on fait. Vous voyez, à Périgueux, on va investir plusieurs millions d'euros. Tout à l'heure, dans le cadre de l'usine du futur, on a un bâtiment qui a plus de 50 ans, qui de l'extérieur, l'intérieur c'est bien, mais l'extérieur, c'est pas très vendeur. Et donc on a un gros projet d'investissement, on va investir là plus de 3 millions d'euros sur ce bâtiment pour le moderniser, pour le rendre plus attractif, pour l'agrandir. On agrandit de 1000 mètres carrés, on met du photovoltaïque, on va être plus économe en énergie, etc., etc. Il y a aussi un côté attractivité pour quelqu'un qui fait 400 bornes et qui arrive à Périgueux, qui n'a pas forcément envie de rester, qui se pointe devant l'usine. Voilà, aujourd'hui, c'est des choses où les gens font très attention à ça. Bon, moi, je n'ai jamais fait attention à mon bureau ou ma chaise, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui arrive et qui, si le bureau n'est pas clean ou la chaise elle est un peu bancale, c'est des choses qui remontent vite. Donc, il faut être attentif à ça. Et après, il y a un troisième secteur qui est là, je pense, le plus difficile, c'est le secteur vraiment de l'emploi productif, des personnes pour faire la production. Là, on a vraiment une grande, grande difficulté pour recruter, pour former. Pourtant, on essaie de tous. Et c'est valable dans notre métier, mais ça va partout. Hein, de trouver des gens qui ont envie de s'investir et de rester dans des métiers. Alors, comment on l'explique? Il y a beaucoup de facteurs. Il y a d'abord, par rapport à l'industrie, il y a quand même une méconnaissance de l'industrie et des entreprises en général. Donc, les gens ont plutôt quand même l'image que l'industrie, c'est sale, ça pollue. Enfin, on vous explique toute la journée que tout ce qu'on fait, c'est pas bien. Les avions, c'est pas bien. Les machines, c'est pas bien, les transports internationaux, c'est pas bien, l'armement, c'est pas bien, enfin, il n'y a rien qui est bien, mais on est tous contents d'avoir un téléphone dernier cri qui est fabriqué en Chine. Donc, bon, on va être un peu cohérent. Mais globalement, le vu de l'extérieur, c'est pas forcément là où les gens ont tout de suite envie d'aller. Il y a après un élément qui est nouveau aussi, c'est l'ennui. Ça, c'est un élément qui. Les gens, enfin, globalement, on s'ennuie vite aujourd'hui. Enfin, il y a 20 ans en arrière à l'usine, moi, quand j'ai fait de la production, j'avais des difficultés pour changer les gens de place. Les gens qui travaillaient une poste, ils faisaient la même chose, ils étaient contents de faire ce qu'ils faisaient. Et donc, quand on disait qu'il fallait passer de là à là, il fallait négocier. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens qui font la même chose pendant 3 mois d'affilée, 3 mois déjà, c'est long. Hein. Et donc, ils s'ennuient, et donc, il faut les intéresser, faire autre chose, et sinon, ils partent vite. Et bon, le dernier point, qui est là aussi plus général, alors je ne peux pas faire. Enfin, on peut en discuter, ouvrir toutes les discussions, mais le rapport au travail, hein, globalement, l'envie de se. Enfin, je ne veux pas être caricatural, mais l'envie de se lever le matin pour travailler, pour aller à l'usine, pour gagner sa vie et rentrer chez soi, c'est quand même des choses qui ne sont pas innées chez tout le monde. Et voilà, le monde dans lequel on vit, notamment en France, fait que tout n'est pas fait pour inciter les gens à travailler. Donc, globalement, il n'y a pas que le salaire là-dessus, hein, donc l'envie des gens de travailler, il y a quand même, là aussi, je ne veux pas être caricatural, mais il y a beaucoup, beaucoup de façons aussi, enfin on le voit, nous, combien on a de gens qui, enfin, je vous imaginez pas le nombre de gens qui refusent des CDI, c'est les gens qu'on forme, là, qui vont refuser des CDI, donc qui n'ont pas de travail à l'issue de la formation, mais voilà, qui vont refuser un CDI, donc je vous laisse faire votre opinion sur tout ça, mais mais vous imaginez, pour une entreprise, on a investi, je ne sais pas combien, à une personne qu'on forme, ce que je vous disais tout à l'heure, ça nous coûte à peu près 15 000 euros par personne. Donc, vous en formez 10, ça fait 150 000 euros. Si à la fin, on en embauche 2, ça fait 75 000 euros la formation. Au bout d'un moment, ça ne marche pas très bien. Je vous le disais aussi tout à l'heure, on a une usine en Tunisie. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de compétitivité. Nos clients, d'abord, ça fait 20 ans qu'on a cette usine. On l'a là-bas parce qu'il faut chercher de la compétitivité. Et puis, voilà, je vais faire de politiquement correct, on a plus de facilité à trouver des gens en production là-bas qu'en France. Donc on a beaucoup, beaucoup de mal à trouver des gens pour travailler en équipe. On a des machines, on n'arrive pas à les faire travailler la nuit, on n'arrive pas. Donc on essaye, on ne trouve pas. Pourtant, la nuit, on a des primes, on a tout un tas de choses. C'est pour ça que ce n'est pas qu'une affaire d'argent. Après, il y a aussi des choses sans. La vie est compliquée aussi. Hein. Vous avez beaucoup de familles monoparentales. C'est très, très compliqué quand vous êtes tout seul de venir travailler la nuit ou d'embaucher à 5 heures du matin. Parce que qui c'est qui garde le gosse à 5 heures du matin ? Quand vous êtes tout seul, c'est compliqué. Donc il y a des solutions. D'ailleurs, voilà, les entreprises ont réfléchi à tout ça. On a un projet, on s'est groupé à 6 entreprises de Boulazac pour construire une micro-crèche. Donc, on va proposer une micro-crèche là aussi pour attirer les gens. On va essayer de faire ça. Donc c'est. Mais bon, globalement, on passe plus de temps dans les entreprises. Ça, c'est un point important à traiter des sujets qui sont annexes à notre activité plutôt que des sujets de notre activité. Donc évidemment, on n'a pas la solution claire. Mais, hein. Et encore, on est dans un secteur, comme je vous disais tout à l'heure, on est plutôt. Le travail n'est pas désagréable, il n'est pas. Aujourd'hui, il y a des secteurs, on a des secteurs comme l'agroalimentaire qui sont. C'est plus difficile de recruter, il y a une réticence, des choses comme ça, nous on ne l'a pas, mais malgré tout, c'est très difficile aussi. Donc il faut essayer d'être innovant, il faut faire ce que vous y allez dans les écoles. Allez, nous, moi, je passe beaucoup de temps à Pôle emploi, on va faire ce que je vous fais plaisir de faire avec vous. On fait 4-5 fois par an à Pôle emploi pour l'expliquer ce qu'on fait, montrer les produits et montrer voilà, tout ce qu'on peut apporter autour de l'entreprise. Comme je vous l'ai dit, l'entreprise a toujours été détenue en majorité par ses dirigeants. Même quand on est rentré en bourse en 1996, toujours eu la volonté qu'on soit que les dirigeants aient le contrôle quand même opérationnel de l'entreprise. Ça a été une volonté de tous. Et ça a été une volonté aussi de nos prédécesseurs. Je le dis aussi, hein, parce que tout ça, c'est toujours très caricatural. C'est le cas de beaucoup d'entreprises. Hein. Quand quelqu'un a passé 40 ans de sa vie à monter une entreprise, il n'a pas envie de l'avoir à vendre à n'importe qui. Ils auraient pu, nos prédécesseurs et ceux d'avant, ils auraient pu le vendre beaucoup plus cher à un fonds de pension ou à qui voulait, mais ils ont eu envie de nous le vendre à nous, c'est vrai. C'est pas, ils l'ont pas donné. Hein. On a fait un bel emprunt pour se le payer, mais malgré tout, ils auraient pu le vendre plus cher ailleurs. Et ben, ils ont dit non, nous on veut que ça reste dans le groupe à des gens qu'on connaît. Donc quand vous entendez partout dire que les patrons s'en mettent plein les poches, et que, voilà, je dis pas que c'est pas le cas. Hein. Il y a des cas, voilà, je veux pas faire de parallèle avec ce qui se passe ici, mais malgré tout, il y a quand même une très très grande majorité des entreprises où les gens, ils ont plutôt envie que ça dure et de se bouger pour leur activité. Nos prédécesseurs, donc, ils ont eu envie de céder, donc ils nous ont proposé au début, on était un petit peu comme ça, puis bon, finalement, on était 7, donc 7 cadres dirigeants. Il y a les directeurs de site, il y a les directeurs des ressources humaines, du commerce, enfin, les fonctions principales, donc le comité exécutif. D'abord, ils nous ont confié pendant 4-5 ans les rênes opérationnelles de l'activité. Et puis après, on a travaillé pour monter un montage financier, hein, pour pouvoir être en capacité de racheter. On n'avait tous pas de fortune personnelle, donc il a fallu réfléchir au montage. Et alors, c'est arrivé, on aurait dû faire ça en 2020, évidemment, avec le Covid, on a décalé en 2021. Et on est à part égale à détenir la moitié à peu près du capital de l'entreprise. D'abord, chacun, comme tu l'as dit, peut devenir actionnaire. On réfléchit à un mécanisme. Là, tout à l'heure, on parlait d'attirer les gens, donc on réfléchit à un mécanisme. C'est comme tout ce qu'on veut faire dans notre beau pays, c'est quand même toujours compliqué. Donc, mais il y a des mécanismes qui existent. Donc on a travaillé là-dessus, sur comment est-ce qu'on pourrait intéresser plus facilement. Alors on a mis en place des choses quand même, sans parler d'actionnariat, mais on a tous vécu l'inflation. Là. Alors, on a essayé là aussi. On se tourne, nous, on est strictement pour rien dans l'inflation. Chez Cofidur, mais bon, nos salariés, ils étaient impactés le matin, quand il y a eu d'abord l'augmentation du gasoil. Nous, on habite en territoire rural, tout le monde est venu nous voir en disant comment je vais faire pour venir travailler. Donc il a fallu trouver des solutions. Donc on est en place une prime mobilité l'année dernière. On est 300 ou 400 euros à chaque salarié pour l'aider à mettre du gasoil. Après, on a mis en place une prime d'intéressement. Donc on a un système d'intéressement au bénéfice, c'est-à-dire que si on fait du bénéfice et s'il y a de la productivité, etc., ben, ça permet de dégager de l'intéressement. On a versé aussi une prime Macron, et puis cette année, on a fait des augmentations très importante, on a fait 6% cette année d'augmentation de salaire. Il y a un mécanisme qui pourrait exister, qui est bien aussi, je pense, mais il faut à ce moment-là qu'il y ait quand même un petit groupe de dirigeants qui soit majoritaire, pouvoir quand même prendre des décisions efficaces rapidement, et puis après, pourquoi pas, une autre partie de l'actionnariat détenu par les salariés, ça se fait aussi. Hein. Mais bon, le système de scope qui peut marcher, mais dans des petites structures, je pense, une structure de 15-20 personnes, ça peut être bien. Bon, c'est un sens, c'est un peu compliqué. Quoi. Nous, on fait avant tout de la production, mais pour faire de la production, en fait, on a que la moitié de nos salariés qui font la production. L'autre moitié, on est dans les services support, donc c'est les gens qui vont travailler d'abord sur la partie technique. On peut appeler ça de la recherche si on veut, mais même si on ne fait pas de conception, c'est toutes les personnes qui vont travailler sur comment faire en sorte qu'un produit soit le plus compétitif possible, le plus qualitatif possible, le plus répétable possible, qu'il ait moins de défauts, etc. Nous, on est dans des organisations, on doit livrer 99% des produits à l'heure, on doit faire 0,2% de défauts. Enfin voilà, on est assez challengé, donc il faut trouver des solutions pour ça. Ça, c'est plutôt des équipes techniques qui vont réfléchir à ça. Et on a un autre aspect où, après, on a des équipes qui font du programme, des équipes qui font du commerce, et on a une très très grosse part de l'équipe qui fait de la logistique. On appelle ça de la supply chain en bon français. Pourquoi ? Parce que vous l'avez compris, pour fabriquer une carte électronique, il faut des composants. Vous voyez les cartes qu'il y a ici ? Sur chaque carte, il y a des centaines de composants. Et s'il en manque un, vous ne pouvez pas vendre le produit. Donc il faut. Le défi, c'est d'avoir tous les composants en temps et en heure pour fabriquer les produits. Juste quelques chiffres. Nous, notre métier, c'est la petite et moyenne série. On fabrique en permanence, on a 700 à 800 références de produits différents dans l'usine. On a 30 000 références de composants en stock. Donc il faut arriver à jongler tout ça. Et donc toute l'équipe qui gère la logistique, c'est vraiment un métier majeur. On achète les composants en Asie, la plupart. Il y a peu de composants qui sont fabriqués en France. Donc il faut arriver à les faire venir, il faut les trouver en bonne quantité, il faut trouver le bon composant de bonne qualité. Il faut que vous ayez le jour J tous les composants pour fabriquer la carte. Et donc c'est un défi majeur. Et donc la logistique, c'est vraiment une grosse partie de notre activité. On sort de la crise la plus... Ça fait longtemps, enfin on a des crises d'appro dans l'électronique, on en a très régulièrement. Tous les 3-4 ans, il y a une crise. Mais là, une crise comme celle qu'on a connue, là, d'ailleurs, vous avez vu, ça a touché tous les secteurs, les semi-conducteurs, etc., l'automobile. On n'a jamais connu ça. Donc effectivement, c'est un vrai risque. Hein. La façon de juguler ce risque, elle est quand même... à part faire des stocks, c'est ce qu'on a fait. Donc il faut avoir la trésorerie disponible. On a doublé nos stocks, nous. Donc on a 30 millions d'euros de stocks, là, de composants sur nos usines. On avait 15 millions d'euros, il y en a un demi. Donc il faut quand même avoir les reins solides, pas du trésorerie. Mais à part faire du stock et essayer après de trouver des gammes de produits les plus accessibles possibles, d'être en veille, on a beaucoup d'outils pour être en veille sur le marché. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des projets de relocalisation en Europe. Mais c'est un risque, hein, c'est un risque. Vous avez aussi un risque majeur, c'est le circuit imprimé. Vous voyez, la carte verte là, qui est quand même le cœur du produit, hein, le circuit imprimé qui est spécifique à chaque carte. Nous, on a fabriqué dans le groupe pendant très longtemps des circuits imprimés. À l'origine, le groupe, d'ailleurs, c'était un groupe de circuits imprimés, tout à la fondation du groupe. Et on n'en fait plus maintenant, depuis une quinzaine d'années, on a tout revendu. C'est une activité qui est très, très compliquée, très concurrentielle, très technique. Et comme c'est le premier centre de coût d'un produit, évidemment, les Asiatiques se sont mis là-dessus. Ils sont plus compétitifs que nous. Il y a aussi une activité qui est assez chimique, hein, vous l'imaginez, donc qui est assez difficile à réaliser dans nos environnements. Donc, mais c'est effectivement un problème de compétitivité, de souveraineté, hein, le circuit imprimé. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics sont sur le sujet, parce que, notamment pour la partie défense, c'est compliqué d'imaginer que les circuits imprimés et les cartes de défense soient fabriqués à l'étranger. Mais en même temps, il va falloir se battre pour maintenir les activités ici. On l'utilise beaucoup pour faire des outils, les imprimantes 3D, c'est un moyen qui est très pratique pour faire des outillages, donc on l'utilise beaucoup pour ça. Et effectivement,
il commence à se développer de la fabrication de cartes électroniques ou en moins de circuits imprimés avec des imprimantes 3D. Alors, c'est les balbutiements, mais on peut imaginer qu'à la vitesse à laquelle la techno évolue, il est possible, ça sera peut-être un, en tout cas on en parle souvent, mais ça sera peut-être un grand virage technologique de l'électronique dans les années à venir, d'avoir des impressions 3D. Vous avez eu dans l'électronique une révolution importante il y a une grosse vingtaine d'années, c'est les composants, ce qu'on appelle CMS, ça veut dire composants montés en surface. Vous voyez, sur une carte électronique, vous avez deux types de composants. Vous avez les gros composants, vous voyez à l'extérieur, qu'on appelle les composants traversants parce qu'ils traversent le circuit imprimé. Eux, ils sont plutôt soudés à la main, pour faire simple. Et vous avez tous les autres, tous les petits composants qui sont soudés avec des machines. Et ça, c'était une révolution en électronique à 20 ans, donc c'est pour ça qu'on parle montée en surface. C'est des bras robotisés, on en a à Périgueux beaucoup. Hein. On a 3 lignes de production, on en a 8 dans le groupe. On reçoit des composants en bobine, avec des bras robotisés, on pose des composants sur les cartes. On pose à Périgueux 60 millions de composants par an, donc on tourne en 2 ou 3-8 si on peut, mais au moins 2-8. Sur cette activité-là. Et donc, ça a été une révolution technologique dans le monde électronique, et pourquoi pas, vous avez raison, l'impression 3D dans quelques années. On n'est pas encore là, mais les choses évoluent tellement vite que, en tout cas, on est en veille sur ce sujet. Je suis évidemment la santé financière de nos clients, de nos concurrents, c'est un élément déterminant. Ce qui fait 60-70% du prix d'une carte électronique, c'est la matière première. C'est la valeur ajoutée qu'on apporte, c'est 30% à peu près du prix du produit. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez en capacité d'acheter. Je vous parlais tout à l'heure de 30 000 références de composants, il faut les avoir en stock. Bien souvent, on achète les composants en bobine, ça veut dire qu'il faut en acheter 5 000 pour en utiliser 10. Donc vous avez une immobilisation financière qui est très importante. Donc la santé financière de nos clients qui seront en capacité d'assumer les charges de ces stocks à terme, elle est majeure, donc on surveille ça de près. Et évidemment, la santé aussi financière de nos concurrents pour veiller et puis... c'est d'avoir un coup d'avance. Après, tous nos clients, nous, on est cotés en bourse. Donc, on a les comptes sont publics. Hein, vous pouvez les consulter deux fois par an. Donc, c'est en toute transparence. Tous nos concurrents, par contre, ne sont pas cotés. Donc, on n'a pas toujours accès à toutes les informations financières. Mais en tout cas, on est vigilant à ça. On travaille dans pas mal de secteurs. On a travaillé historiquement dans les secteurs de... On a fait beaucoup de machines pour la radiographie ou les échographies. Et on a une grosse activité pour le secteur dentaire. On fabrique une gamme de produits pour le détartrage des dents. Avec un créé en Suisse, donc là on a une activité importante là-dessus. On est également présent sur le site de Laval, on travaille pour le cœur artificiel. Je suis pour la baisse de la fiscalité des entreprises, et on peut en discuter si vous voulez de ça, hein, du coût du travail. Il ne faut pas être là aussi, il faut comprendre pourquoi. Les entreprises, si elles veulent baisser le coût du travail, c'est pas parce que pour s'en mettre plein les poches, c'est pas, je dis ça partout, ça n'a rien à voir. On parlait tout à l'heure, on est en concurrence avec le monde entier, on ne peut pas partir avec un handicap aussi lourd. Il y a eu des efforts qui ont été faits, c'est vrai, ces dernières années par les pouvoirs publics pour baisser les impôts de production notamment, mais on reste quand même largement au-dessus. Bon, le sujet là, local, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais globalement, sachez quand même qu'il y a en gros, le taux de l'heure entre l'Italie et la France, le coût horaire d'un salarié, c'est plus de 10 euros. Donc c'est quand même, voilà, l'Italie, ce n'est pas un pays sous-développé. Donc je veux dire, on a quand même ce handicap-là du coût du travail qui est majeur et qui n'est pas réglé. Hein. Il y a eu des efforts de fait, mais ce n'est pas réglé. Par contre, le lien avec la fiscalité locale, c'est que les pouvoirs publics, donc je fais le choix de supprimer en gros les impôts de production qui étaient collectés par les EPCI, par les intercommunalités. Donc du coup, c'est compensé par une dotation d'État. Ce qui fait que demain, quel est l'intérêt pour une intercommunalité de faire venir une entreprise? Vous n'avez pas de foncier, vous allez vous battre avec tous les riverains parce que vous allez mettre une usine et personne ne sera content, et vous n'aurez pas de fiscalité. Enfin, le monde, il avance. Hein, c'est pour ça que... J'essaie de ne pas être caricatural, hein, je veux dire, il n'y a pas les gentils contre les méchants. Enfin, voilà, les choses sont plus compliquées, évidemment. On est tous pareil, demain, on vous dit ici, c'est très joli. Si demain matin, on met des cheminées avec une usine, peut-être que si c'est devant chez moi, je ne serais pas content. Mais au-delà de ça, le manque de réactivité qu'on a dans le traitement des dossiers, c'est un vrai sujet. Hein, mais on ne se rend pas compte, je ne sais pas. Les gens, on ne se rend pas compte. Hein, j'ai des exemples tout le temps. Là, il y a une boîte en Bretagne, fabrication de chocolatine, de pain au lait, je crois quoi. Enfin, il veut doubler son activité, embaucher 500 personnes. Bon, c'est quand même bien. Il est déjà sur place, il a un terrain. Non, ça se fait pas. Ça fait 3 ans que ça dure, et puis parce que il y a un papillon, je ne sais quoi. Enfin, bon. Donc, ça se fait pas. Ça se fait pas. Il est parti ailleurs. Hein. Donc, voilà. Donc après, on dira tous, on comprend pas. Et moi, on est d'entreprise, plus le coût du travail est cher. Donc voilà. Mais ça nous concerne tous, parce qu'on dit que ça concerne que le monde économique. Non, quand il n'y a pas d'entreprise, il ne se passe rien. C'est les entreprises qui payent les salaires, c'est les entreprises qui payent la fiscalité, qui permet qu'on ait les services publics qu'on a. C'est grâce aux entreprises qu'il y a tout ça. Et c'est grâce aux services publics qu'on a aussi les entreprises. Hein, c'est tout est lié. Mais enfin, au départ, il faut bien qu'on produise, quelque chose pour avoir un service en retour. Si on ne prend pas tous un peu collectivement conscience de ça, c'est quand même un problème majeur. Et donc, sauf si on veut rester un territoire de tourisme. Enfin, j'ai cru comprendre, à travers ce qui se passait, que ce n'est pas ça qui allait nourrir toute la population. Donc il faut trouver un compromis là-dessus. Mais c'est un vrai sujet de société. Je pense qu'il y a un point quand même majeur, c'est qu'on n'a pas du tout en France de culture économique. Hein, on n'apprend pas l'économie à l'école. Il n'y a pas du tout... Il y a vraiment une méconnaissance du sujet économique, mais très, très profonde. Et donc, le décalage qu'il peut y avoir des fois entre la perception des entreprises et la réalité du terrain, elle est liée aussi à ça. Hein. Je pense que il y a vraiment un problème de base sur la culture économique et l'intérêt. Et puis, il faut arrêter aussi de toujours opposer les uns aux autres. C'est pas, je suis né ici, j'habite à Périgueux, j'ai pas envie que mon entreprise elle pollue l'île ou que les salariés qui travaillent chez moi ils aient des cancers. Enfin, voilà, il faut que ça se passe bien, qu'on n'a pas envie de polluer le territoire. Mais malgré tout, l'entreprise, il faut qu'elle se développe. Ou sinon, elle ne se développe pas, mais il n'y a plus d'emplois dans le territoire. Donc, c'est comme on veut. Mais voilà, je suis désolé, je préfère... qu'il y ait de la fumée à Conda et que les papeteries tournent. Hein. Voilà. Après, il faut un moment qu'on soit tous, qu'on ait envie de faire ça. Donc, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Il faut aussi un moment se mettre autour de la table et discuter sereinement des sujets et que chacun essaie de se comprendre. Pas les méchants contre les gentils ou les patrons contre les ouvriers. Enfin, je sais pas, la lutte des classes, c'est terminé. Hein. Donc, On a vécu cette année, c'est la première fois que ça nous arrive. Hein. Nous, on baisse les prix tous les ans. C'est contractuel, vous avez des contrats très durs. Hein. Nos clients sont gentils, mais ils sont exigeants, donc il faut baisser les prix tous les ans. Depuis des années, tous les ans, on baisse les prix. C'est la première fois cette année où on a été obligé d'augmenter très fortement nos prix. Pourquoi on a augmenté fortement nos prix ? Parce que, vous savez tous, il y a eu d'abord l'inflation. Il a fallu augmenter très fortement les salaires. Il a fallu acheter plus cher toutes les matières premières. Et il a fallu acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher l'électricité. Et ça aussi, les particuliers, on ne s'en rend pas trop compte, même si là, on va s'en rendre un peu compte parce que ça augmente de 10%. Mais nous, ça a augmenté de 350% au 1er janvier. C'est-à-dire qu'on a payé l'électricité 3,5 fois plus cher cette année que l'année dernière. Donc, juste, vous avez un chiffre en tête, on a payé cette année plus cher d'électricité que notre bénéfice de l'année dernière. Donc voilà, mais ça, c'est des chiffres aussi, tout le monde ne s'en rend pas compte. La compétitivité énergétique, c'est un sujet majeur. Hein. Ça, c'est colossal. Et donc, pour la première fois, on a été obligé d'augmenter fortement nos prix. Parce que sinon, on n'équilibre pas les comptes. Et évidemment, ça s'est pas toujours bien passé. Hein. Même si nos clients sont sympas, ben, ils ont aussi des contraintes. Mais ça veut dire que ce qu'on a fait là, soit on arrive à trouver dans les années à venir des solutions pour rebaisser les prix. Je ne sais pas par quel biais, mais il va falloir trouver. Soit... C'est évident que nos clients, ils iront chercher ailleurs. Ils ne sont pas fous. Enfin, on ne peut pas accepter de payer, il n'y a qu'en France, où l'électricité est si chère. Donc, ce n'est pas possible. Et là, on est en train de négocier les marchés d'électricité de l'année prochaine. Ça sera beaucoup moins cher que cette année, mais ça sera beaucoup plus cher qu'il y a deux ans. Donc, ça reste un vrai problème. Donc, ce problème de compétitivité, j'y reviens toujours là-dessus, mais c'est un problème majeur. Donc, augmenter les prix, c'est facile. Mais nous, on n'est pas Leclerc. On ne pouvait pas monter le prix du beurre demain matin. Il faut là... On a des contrats. Le monde ne nous attend pas, c'est ça le problème. Enfin, si on était qu'entre nous, bon, on se débrouillerait, mais le monde ne nous attend pas. Hein. Voilà, on sait faire des choses, mais enfin, il n'y a pas que nous qui savons les faire. Il faut être aussi un peu humble là-dessus. On a toujours tendance à croire qu'il n'y a que nous qui sommes les meilleurs du monde et qu'on sait tout faire. Je veux dire, les gens savent faire des choses ailleurs, hein, donc il faut... Moi, c'est la concurrence. Hein. Il faut trouver des solutions. L'électricité ? Ah, on a eu une conférence passionnante de l'ARES il y a deux mois qui nous a éclairé sur ce sujet, quand même, sur la filière nucléaire. Mais voilà, je ne vais pas rentrer sur le débat sur l'électricité, mais c'est enfin, là aussi, collectivement, il faut qu'on s'interroge un peu. L'électricité la moins chère d'Europe, c'était un des rares atouts qu'on avait. On a en gros, dans l'économie, il y a plutôt trois grands atouts qu'on a. Le premier atout, c'est nos infrastructures. On a des autoroutes, on a des avions, on a du réseau téléphonique, on a de Internet, on a la fibre à Boulazac depuis longtemps, on a de la chance. Mais globalement, on a plutôt des infrastructures qui répondent aux normes internationales et qui donnent envie plutôt, qui donnent confiance. On sait faire des choses quand même et on est expertise là-dessus. Et on avait après deux autres atouts. Un atout autour de l'éducation, on avait plutôt des gens qui étaient bien formés et qui avaient un bagage de base culturelle et les notions de base qui étaient plutôt bien apprises. Enfin, voilà, ce qui est malheureusement plus le cas. Hein. On parlait tout à l'heure des difficultés de recrutement, ça aussi, c'est il faut être assez lucide là-dessus. Hein. En Dordogne, vous avez, enfin Francine, on parle avec moi, mais vous avez à peu près 30 000 personnes qui n'ont pas de travail. Il y a des gens au milieu de ces 30 000 personnes qui sont très, 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 très éloignés de l'emploi. Donc vous pouvez aussi, il ne suffit pas de dire qu'il faut mettre les gens au travail. Je veux dire, il y a des gens, vous les mettez au travail, mais on n'en veut pas parce qu'ils sont trop loin des standards de base, de la lecture, de l'écriture, de la vie en société. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'était des choses qui étaient relativement acquises, ce qui est malheureusement plus forcément le cas, et ça, c'est plutôt un handicap. Et il y avait un troisième point, par contre, qui était très important, c'était la compétitivité sur l'énergie. C'était majeur. Hein. Et localement, je ne fais pas un dessin, mais c'était quand même un atout qu'il y avait. Donc ça, si on n'arrive pas rapidement à inverser la tendance, c'est assez préoccupant. Donc je crois qu'il y a quand même des décisions qui ont été prises par les pouvoirs publics. Ça peut prendre du temps, mais ça va dans le bon sens. En tout cas, il faut une énergie compétitive. Sinon, et puis ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on a dépensé, on a dépensé vraiment cette année beaucoup, beaucoup d'argent. À la limite, j'aurais préféré qu'on paye des impôts. Hein. Moi, ça aurait servi à quelque chose. Mais là, je ne sais pas où part cet argent-là. Donc il faut s'interroger là-dessus aussi. Mais collectivement, hein, tout le monde est responsable. Il y a bien des gens qui ont décidé de fermer à un moment les centrales nucléaires, c'est pas tombé du ciel. Donc c'est aussi chaque citoyen qui doit être conscient de ça. Et puis quand on prend une décision, il faut peser le pour et le contre. Il y a peut-être plus de pour que de contre, mais en tout cas, d'un point de vue économique, il y a plus de contre que de pour. On a beaucoup d'audits, on est contrôlé régulièrement par pas mal d'organismes publics aussi. Il faut contrôler tout ça. Et on a un nouvel élément, quand je vous parle des difficultés qu'on a, on passe plus de temps à traiter des difficultés qui sont extérieures qu'intérieures. On a eu aussi les phénomènes de cyberattaque. On a été victime d'une cyberattaque l'année dernière, qui nous a fortement perturbés pendant un mois. Et heureusement, on avait mis en place des protocoles qui nous ont permis quand même de nous en sortir et de pas arrêter l'activité, mais on a été quand même très, très impactés. Ça nous a coûté beaucoup d'argent. Et encore, nous, on a réussi à pas arrêter l'activité. On a des concurrents qui ont été arrêtés pendant 2 ou 3 semaines, là, encore cette année. Donc c'est des problèmes aussi qu'il faut prendre en compte. Ça nécessite les cyberattaques de beaucoup, beaucoup d'investissements, à la fois des investissements matériels, mais des investissements humains aussi. Il faut des gens compétents pour gérer ça. Et c'est un vrai sujet de travail et de préoccupation. Et là, pour le coup, la filière aéronautique est plutôt bien organisée là-dessus. En tout cas, elle essaie de prendre les devants sur ces aspects-là. Il y a tout un marché de la revente de composants qui s'est beaucoup développé d'ailleurs ces derniers mois avec la pénurie qu'il y a eu. Donc il y a un marché de revente qui existe pour d'autres applications, d'autres activités, pour un peu le monde entier. On a beaucoup de stocks, tout le monde a beaucoup de stocks. Comme je vous disais tout à l'heure, on achète des bobines, on utilise une partie, après on les stocke. Et donc effectivement, peut-être que quelqu'un est intéressé. Après, la difficulté, c'est informatiquement de retrouver ce qu'on a en stock et ce que voudrait l'autre. Et donc il y a des spécialistes de ça, mais effectivement, on essaie de les revendre. Puis après, il y a un autre aspect, c'est environnemental, mais qui est la revalorisation des déchets qui sont liés à l'électronique. Que ce soit les déchets de composants, de matière ou de flux. Il y a des filières organisées aussi là-dessus. On a des produits qui nous reviennent. Comme je vous disais tout à l'heure, on est un secteur où on essaie d'avoir pas trop de défauts, mais on a de temps en temps quelques défauts et les cartes reviennent, mais pour expertise. On garantit les produits entre 2 et 3 ans. Par contre, on a une grosse activité de maintien en condition opérationnelle. On a des produits qui sont en vie pendant très très longtemps en exploitation, donc qui nous reviennent pour les remettre à niveau, les nettoyer. On avait un site qu'on a plus dans le groupe, qu'on a revendu, mais pendant très longtemps, on avait un site à Cherbourg, on faisait que ça. Quand vous recevez une box chez vous, quand vous vous abonnez, vous avez des chances que la box soit d'occasion. En fait. On avait une activité où on brassait des dizaines de milliers de box, on les remettait au goût du jour, on les relookait, les renouvelait. Et voilà, ça se fait beaucoup. Nous, on a une usine en Tunisie. Ça fait 20 ans qu'on a une usine en Tunisie. C'est pour ça que je vous dis quand même, il faut qu'en France, le monde ne nous attend pas. Quand on a ouvert notre usine il y a 20 ans, c'était difficile. Hein, on avait des problèmes de beaucoup. On avait des gens qui se pointaient. En fait, et on se rendait compte qu'ils ne savaient pas lire, pas écrire. Bon, c'était assez difficile. Aujourd'hui, on embauche des gens qui ont un niveau plus que remarquable en Tunisie. Et on embauche des gens à Périgueux qui ont un niveau différent. Hein. On embauche des gens qui ne savent pas tous lire. Donc, mais il faut que vous soyez conscient de tout ça. Donc, j'espère qu'en tout cas, que ce n'est pas une fatalité. Mais si on ne change pas ça aussi, ça n'a pas bien marché. Hein, donc, non, mais les autres ne nous attendent pas, encore une fois. Le monde entier avance. L'autre aspect du sujet, quand même, pour revenir aussi, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le rapport au travail, il ne faut pas non plus tout caricaturer. Il y a ce que je vous ai dit précédemment, on a vraiment des gens très éloignés de l'emploi. Et puis après, il y a aussi des gens, et on peut en débattre, hein, qui ont un rapport différent au travail, qui se disent qu'ils veulent passer leur vie à travailler et qu'il y a autre chose à faire dans la vie que travailler. Bon, c'est un débat philosophique. Mais en tout cas, ça traverse quand même... Ça traverse quand même à peu près tout le monde. Hein. On a beaucoup, beaucoup d'ingénieurs qui se posent ces questions-là. Aujourd'hui, on a une pression forte, toutes les entreprises, pour travailler que 4 jours par semaine, par exemple. C'est une demande qui monte fort. Donc, ce rapport-là, tu l'as dit, il est important. Donc, prendre en compte la qualité de vie au travail, c'est majeur. Donc nous, on a beaucoup de... Si on fait ces travaux aussi sur le bâtiment, c'est aussi pour ça. Mais le rapport, voilà, je vous le disais tout à l'heure en rigolant, mais c'est vrai, hein, les gens qui arrivent et qui si vous avez voilà, le premier jour de travail, le bureau il est un peu bancal et la chaise elle n'est pas géniale. Voilà, et donc, alors que bon, voilà, tu as travaillé, Yann, 40 ans sans clim, ce n'est pas génial, mais bon, ça existait. Aujourd'hui, quand tout est climatisé, et si la clim ne marche pas pendant une journée, c'est compliqué. Donc voilà, à nous de faire en sorte d'avoir cette qualité de vie, et donc on travaille là-dessus. Après, oui, la démarche RSE, bon, par exemple, on est nous ISO 45001, c'est la santé et sécurité au travail. On est depuis très longtemps. Et ça veut dire qu'on co-gère la santé et sécurité au travail avec les partenaires sociaux de l'entreprise. Donc, c'est plutôt bien, hein, ça permet de faire avancer quand même les sujets. Mais c'est assez primordial. On veut que les gens y restent, qu'ils soient bien. On n'a pas envie que les gens ils soient surexploités ou qu'ils soient malades. Donc, bon, oui, alors on appelle ça du RSE, il faut le faire. T'as raison.
On va avoir l'année prochaine, enfin en 2024, la directrice de la faculté de droit de Périgueux qui va venir nous parler du nouveau rapport au travail des Français. N'est-ce pas? On compte sur toi. Voilà. Bon, maintenant, ça va être le moment de les boire un pot. Merci à la mairie, à la municipalité qui a participé. Il y a toujours la petite caisse parce que nous vivons que de charité. Vendredi après-demain, on a la chance d'avoir un grand dirigeant d'une grande entreprise CAC 40. Je crois que c'est la 20e capitalisation du CAC 40. Et donc, c'est quand même assez exceptionnel, qui va venir nous parler d'industrie et l'industrie décarbonée, l'évolution vers l'industrie décarbonée. Il se trouve que Jean-Marc de Royère est un parent du Jean-Marc de Royère qui a fondé la mine du Lardin. C'est pas en ligne directe, mais c'est un parent. C'est un Jean-Marc de Royère qui a fondé la mine du Lardin au début du XVIIIe siècle. Et Jean-Marc de Royère vient nous parler d'industrie décarbonée vendredi à 18h. Bon, à mon avis, c'est une grande chance que la presse le sache. C'est exceptionnel d'avoir un grand dirigeant comme ça. Bon, ici, 18h. On a commandé le beau temps, la non-pluie aussi, mais bon, on espère que ça va marcher. Bon, merci à tous d'être venus. Merci beaucoup à toi, Nicolas, parce que c'était sympathique de venir et de nous éclairer sur le fonctionnement.